Le Mois Market
avec Candy Crush.
C'est tellement bien le Mois Market. Ça m'a inspiré un nouveau spectacle. Je le ferais bien lire, mais mon imprimante est en panne sèche.
Pas de problème, Michel. Jusqu'au 8 novembre chez Carrefour Market, il y a 30% de remise immédiate pour l'achat de deux cartouches d'encre HP identiques.
Mon spectacle, c'est une histoire d'amour.
Oh, je pourrais jouer sur scène avec vous.
Bah oui, vous donnerez la réplique à mon imprimante.
Ah.
Bien joué le Mois Market
avec Candy Crush. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est Jean Descartes qui est aujourd'hui l'invité de Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'est toujours une joie de recevoir Jean Descartes. Son dernier ouvrage est une approche très intime, très personnelle, quasi envoûtante de l'histoire de Nicolas II et d'Alexandra de Russie. Nous allons lui poser toutes sortes de questions là dans quelques moments.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Louise sur l'origine de l'expression « rire jaune ».
Question bien intéressante. Pour le moment, je vous propose de nous rendre en Russie sur les pas d'un des couples de souverains les plus amoureux de toute l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il y a 100 ans, exactement 100 ans, à l'automne 1915, le tsar Nicolas II, qui règne alors depuis plus de 20 ans, prend personnellement le commandement de ses armées, autant dire qu'il s'expose en première ligne, non sans quelques résultats d'ailleurs, puisqu'en juin 1916, la célèbre offensive Broussilov va se solder par un succès, mais l'armée russe n'en est pas moins à bout de force. Or, elle est très importante, cette armée russe, dans la Première Guerre mondiale qui est en train de se jouer. Ne parlons même pas de l'arrière, cette population civile exsangue, totalement lasse de souffrir pour une guerre dont on ne voit pas le bout. En septembre 1916, la Douma, c'est cette nouvelle assemblée qui n'existe alors que depuis une dizaine d'années, la Douma donc a prévenu l'empereur qu'on était au bord d'une grave crise sociale. Seulement, on ne peut pas être au four et au moulin, le tsar Nicolas est au front. Il fait la guerre et pour ce qui est de la politique intérieure, il l'a laissée entre les mains de sa femme, l'impératrice Alexandra. Une femme de grande qualité, nous en parlerons longuement tout à l'heure avec Jean Descartes, mais une femme dont on connaît le point faible, c'est la très grande fascination qu'elle éprouve pour ce personnage étonnant, ce starets, comme on dit en Russie, cet illuminé Rasputin. De sorte que à Petrograd, puisque maintenant on appelle Saint-Pétersbourg Petrograd depuis le début de la guerre, on est effrayé par la dérive du régime. Un certain nombre de proches de la famille impériale forment, vous le savez, une conjuration autour du prince Youssoupov et du grand-duc Dimitri. Et le 17 décembre 1916, ils vont assassiner Rasputin dans des circonstances folles et que j'ai eu souvent l'occasion d'évoquer ici. En fait, on espérait se débarrasser de Rasputin, l'effet a été délétère avec la création à Petrograd d'un climat d'angoisse et même de fièvre. Le pouvoir impérial qui depuis des années était chancelant semble soudain perdre pied. Or, en Russie, vous savez que dès que le pouvoir chancelle un peu, la population remue. Dans l'entourage du tsar, y compris chez ses alliés français et anglais, on s'inquiète de ce délitement. On met constamment Nicolas II en garde, seulement il se trouve que le tsar est convaincu qu'on ne pourra jamais lui faire de mal. Il a une confiance inconditionnelle dans l'amour que lui porte le peuple. Ça me fait penser à Louis XVI. Vous savez, on est tout à fait dans le même genre de rapport entre le souverain et le peuple. Arrive, d'ailleurs, c'est pas la seule des comparaisons qu'on peut faire. Arrive l'année 17, la révolution russe. Quand on dit 1917. Janvier, février, ce qu'il reste du pouvoir impérial multiplie les incohérences. Alors par exemple, le président du conseil, Trepov, est renvoyé. Il est suspecté par l'impératrice d'avoir voulu éloigner Rasputin. Il est remplacé par le vieux prince Golitsyn, qui n'a jamais fait de politique. Le comte Ignatieff, de son côté, qui était ministre de l'instruction publique, se trouve être limogé. Au moment même où l'on renforce les pouvoirs de Protopopov, qui est ministre de l'intérieur, mais dont il faut bien dire que c'est la moitié d'un fou. Bref, si l'on en croit certains observateurs, l'atmosphère à Tsarskoye Selo, qui est la résidence de l'impératrice, l'atmosphère est quasiment celle d'une institution d'aliénés. Je tire ça de mémoire politique de l'époque. Et pourtant, si l'on prend un peu de recul, on se rend compte que la situation réelle de la Russie à l'époque n'est pas si catastrophique que ça. L'avancée allemande a été stoppée, même bien stoppée, puisque maintenant le front est solidement tenu. Je vous parle là de l'aspect militaire. Hein. La Russie a occupé la Galicie orientale et elle est devenue un soulagement considérable pour le front de l'Ouest, pour les Français et les Anglais, entre autres. Et puis sur un plan civil, bien sûr, il y a de gros problèmes de ravitaillement, c'est vrai, mais ils ne sont pas véritablement pires qu'ailleurs. Il n'y a pas de famine en Russie à cette époque. Les usines d'armement tournent à plein régime. Quant à la haute société, elle est plus brillante que jamais. Et à Petrograd, on peut dire que les bals succèdent aux soirées. L'opposition est complètement désorganisée, ça c'est pour l'aspect politique. Les bolcheviks, qui pour plus tard vont prendre le pouvoir, ne sont à l'époque que quelques dizaines de milliers en tout. Quant à leur chef Lénine, qui est exilé en Suisse, c'est encore un illustre inconnu. L'immense majorité du peuple russe continue de vénérer le tsar, qu'on appelle le petit père des peuples, et l'idée d'une abdication qui va se développer, qui est très en vogue à cette époque-là, depuis quelques semaines en tout cas à Petrograd, cette idée n'est encore pour le moment qu'un fantasme de la Douma, de cette assemblée. Pour être tout à fait clair, je voulais préciser que tous les conspirateurs qui vont acculer l'empereur à l'abdication sont des monarchistes bon teint à cette époque-là. Nous ne sommes pas en face d'une révolution républicaine. Ce que veulent ces gens, c'est profiter d'une régence qui permettrait, certes, d'assainir le pouvoir, mais surtout qui leur permettrait d'accroître le leur de pouvoir. Sans oublier, bien entendu, la volonté de tirer profit d'un certain nombre de réformes. Pour le moment, personne n'est véritablement favorable à la République. Donc vous avez des gens qui sont favorables au régime, mais qui veulent le réformer en profondeur, qui veulent profiter de la guerre et de la situation de faiblesse de la famille impériale pour récupérer du pouvoir. Ça s'appelle tout simplement ça, en histoire, des apprentis sorciers.
Extrait du poème symphonique « Une nuit sur le Mont Chauve » par Igor Markevitch. Restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand, cet après-midi, vous parle du tout dernier empereur de Russie, Nicolas II.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, l'émission est consacrée à un couple souverain très amoureux, Nicolas II et Alexandra de Russie. Et vous nous parlez de Nicolas II, Franck
Ferrand. De son abdication, le 24 février, c'est-à-dire pour nous le 8 mars 1917, vous savez qu'il y a ce décalage entre les deux calendriers à l'époque, le tsar quitte sa femme et Tsarskoye Selo pour rejoindre le grand quartier général de Mogilev, ce qu'on appelle la Stavka, c'est en Biélorussie. Or, dès le lendemain, le 25 février, ça y est, de nouveaux troubles éclatent à Petrograd. Il y avait quand même 3500 policiers et une garnison de 120 000 hommes à Petrograd. Mais les forces de l'ordre sont dépassées. Il faut vous dire que le commandement est complètement incompétent. Les réservistes de la garde, ils vont jouer un rôle essentiel. Ce sont essentiellement des paysans qui ont une formation militaire pour le moins rudimentaire, qui manquent totalement de discipline et surtout de motivation. La première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller fraterniser avec les ouvriers en grève, avec les émeutiers insurgés. Et l'on crie dans les rues « Abat la guerre, abat la tsarine allemande ». Il faut vous dire qu'elle est née Hesse d'Armstadt. Elle est effectivement d'origine allemande dans cette période de guerre contre l'Allemagne. Bref, c'est un début d'anarchie. Et le 26 février, le président de la Douma, qui s'appelle Rodzianko, qui va jouer un rôle très important, entre en scène, il télégraphie au tsar, on tire en désordre dans les rues. Il est nécessaire de confier immédiatement à une personne jouissant de la confiance du pays le soin de former un nouveau gouvernement, dit Rodzianko. Quand le tsar reçoit le message, il dit « Encore des bêtises du gros Rodzianko ». C'est vrai que ce Rodzianko, on dirait un peu, pour vous le figurer, imaginez Lénine, mais qui aurait pris 35 kilos d'un coup. Seulement, à Petrograd, la situation continue de se dégrader. Elle se dégrade d'heure en heure. Le régiment des gardes de Voligny se soulèvent, avec encore des soldats qui fraternisent avec des ouvriers. Ils sont rejoints par des unités de la garde de Lituanie. Vous savez, c'est ce phénomène de percolation qui vient à bout des vieux régimes. À la Douma est bientôt formé un premier soviet d'ouvriers et de soldats. À la demande du cabinet, le frère du tsar, le grand-duc Michel, adresse un message télégraphique à Nicolas II pour lui demander de revenir d'urgence à Petrograd. Le tsar a compris qu'il était temps de se rapprocher de sa capitale, parce que la Stavka, c'est à 600 km hein, quand même de Tsarskoe Selo. Donc le tsar se met en route pour essayer de venir remettre un peu d'ordre lui-même. Qu'est-ce qu'on attendait exactement du tsar? Qu'il abdique? Même pas. Pour le moment, la Douma se serait contentée de la formation d'un nouveau gouvernement responsable devant elle. Or, Nicolas II y songe sérieusement. Dans la nuit du 28 février, son train prend donc la direction de Tsarskoye Selo. Seulement voilà, à l'aube, on apprend que la voie qui mène à Tsarskoye Selo est coupée. Deux compagnies de soldats révoltés avec canons et mitrailleuses occupent la gare de Loubian, empêchent le convoi impérial de passer. Il va donc s'arrêter ce convoi impérial à Dno. Dno, ça veut dire l'abîme. C'est tout un programme. Finalement, le train va bifurquer vers Pskov, où se trouve l'état-major de l'armée du Nord que dirige le général Rouski. Arrivé sur place, le tsar télégraphie au patron de la Douma, la Rodzianko, pour qu'il accepte la formation d'un cabinet responsable devant la Douma. Seulement, ce télégramme de l'empereur est déjà dépassé quand il parvient à Petrograd, puisqu'à cette heure-là, la Douma a déjà procédé de son propre chef à la désignation d'un cabinet provisoire présidé par le prince Lvov. Désormais, les députés réclament bel et bien l'abdication de Nicolas II en faveur de son fils, et l'on envoie à l'empereur deux émissaires à Pskov. Il y en a un qui s'appelle Gouchkov, qui est un personnage assez ambitieux, assez remuant. L'autre est beaucoup plus présentable, j'allais dire, beaucoup plus calme, c'est Chulgin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette pression massive du pouvoir civil s'accompagne d'un véritable laminage de la part du pouvoir militaire. C'est ça la clé de cette histoire d'abdication. C'est que bien sûr, ça s'agite beaucoup à la Stavka et à la Douma, et dans les milieux politiques, mais surtout, c'est le grand état-major qui veut du changement. Et le premier des généraux russes, le patron de la Stavka, Mogilev, qui s'appelle le général Alexeïev, s'est assuré du ralliement de tous les états-majors à l'idée d'une abdication, et lui-même va faire pression sur le général Rouski, qui se trouve justement à Pskov auprès du tsar, pour que l'on aille dans le sens d'une abdication. Et c'est comme ça qu'on arrive en cette matinée fatidique du 2 mars 1917, pour nous c'était le 15 mars, cette matinée où toutes les commandes paraissent d'un seul coup échapper au tsar. On va voir avec quels effets.
L'abdication de Nicolas II, on en parle cet après-midi sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions à Franck sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous parlons de Nicolas II et de son abdication cet après-midi sur Europe 1. Franck, nous sommes le 2 mars 1917.
Et le tsar est en train de rentrer donc vers sa capitale, vers Petrograd. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'a même pas pu aller jusque-là. Il a été arrêté à Pskov, donc. Il est là, donc, dans cette gare de Dno, avec un certain nombre de hauts responsables d'état-major, le général Rouski notamment, avec ses deux représentants de la Douma. Il y a avec lui un certain nombre des membres de son cabinet, il y a son médecin, etc. Or, ce qui est inouï, c'est que cet homme est parti quelques jours plus tôt de Petrograd avec l'idée que, je dirais pas que les choses allaient bien, mais que son pouvoir n'était de près ou de loin pas en cause. Et là, tout le monde lui dit, il faut abdiquer. C'est assez incroyable. Et il va se laisser faire d'une certaine manière. Voilà le fameux manifeste qui va être publié le 2 mars, enfin 2 mars en Russie, 15 mars chez nous, à minuit. Au jour de notre grande lutte contre l'ennemi extérieur qui emploie depuis 3 ans ses efforts, etc., etc., explique le tsar. Et voilà ce qu'il dit. en ces jours décisifs de l'existence de la Russie, nous avons considéré comme un devoir de notre conscience de faciliter à notre peuple une étroite union et l'organisation de toutes les forces nationales pour remporter au plus tôt la victoire et, d'accord avec la Douma d'Empire, nous avons résolu de renoncer au trône de l'Empire de Russie et de déposer le pouvoir suprême. C'est assez incroyable ce qu'on lit là, sous la plume, si je puis dire, ou sous la dictée plus exactement du tsar Nicolas II, qui, en quelques mots, et sans en avoir été sans y avoir été tout à fait obligé, vient de mettre un terme, vient de renoncer au pouvoir absolu. On est en train d'assister à la fin d'une des plus vieilles monarchies du monde. Parce que, évidemment, le tsar a abdiqué, non pas en faveur de son fils, qui est très malade, le tsarevitch Alexei, vous savez, il a abdiqué en faveur du grand-duc Michel, mais le grand-duc Michel n'a pas voulu du pouvoir. Il laisse donc vide le trône impérial. On connaît la suite. Nicolas, sa femme et ses enfants réunis à Tsarskoye Selo, en résidence surveillée. D'ailleurs, on ne peut pas dire que le tsar vive très mal cette période. Au contraire, même, c'est intéressant. On va poser la question à Jean Descartes dans un instant. Et puis, l'exil à Tobolsk en septembre, en attendant Yekaterinbourg en avril 1918. Et vous savez que, du moins si l'on en croit la version officielle, et je ne vais pas rentrer une fois de plus aujourd'hui dans cette polémique, dans la nuit du 16 au 17 juillet, la garde chargée de la surveillance de la famille impériale va faire descendre tout le monde dans un entresol pour massacrer les gens à bout portant. Alors, avant de refermer cette page assez étonnante de l'histoire russe, j'aimerais quand même laisser la parole à l'un des proches parents du tsar déchu, le grand-duc Alexandre. Voilà ce qu'il écrivait en 1952 à propos de son ultime souvenir du tsar. « Encore un jour de rumeurs folles, écrit-il, l'impératrice douairière, donc la mère de Nicolas, Olga et moi éperdus, nous nous regardons en silence, nous pensons à l'Empire, elle songe surtout à Niki. À l'aube, écrit le grand-duc Alexandre, mon aide de camp m'éveilla et me tendit un papier, l'abdication. Niki, refusant de se séparer de son fils, laissait le trône à son frère Micha. Je m'assis sur mon lit et relus le manifeste. Depuis quand un souverain abdique-t-il pour une disette passagère de pain et quelques désordres partiels dans sa capitale? La trahison des réservistes de Saint-Pétersbourg, mais le tsar avait une armée de 15 millions d'hommes à sa disposition. Niki avait-il donc perdu le sens? Tout cela, en effet, y compris son absurde voyage à Saint-Pétersbourg, paraissait ridicule en 1917 et ne le paraît pas moins depuis. Alors, le grand-duc explique qu'il s'habille, qu'il se rend à voir d'abord l'impératrice douairière et puis le voilà parti. À Moïlev, dit-il, notre train se rangea devant la plateforme impériale d'où le tsar partait d'habitude quand il se rendait à Saint-Pétersbourg. Quelques minutes plus tard, l'automobile de Niki arrivait. Donc voilà le tsar déchu. Le tsar parcourut lentement le quai, dit bonjour aux deux cosaques qui gardaient la porte du wagon de sa mère et entra. Il était pâle, mais rien d'autre dans son maintien ne révélait qu'il venait d'abdiquer. Il resta enfermé 2 heures avec la vieille impératrice. Elle ne me révéla jamais le sujet de leur conversation. Quand je fus invité à les rejoindre, elle était assise et sanglotait bruyamment. Niki était debout immobile, les yeux fixés à terre et bien entendu, il fumait. Nous nous embrassâmes. Son calme prouvait qu'il était fermement convaincu d'avoir bien agi. Il blâmait seulement son frère Micha de refuser la couronne et de laisser la Russie sans souverain. « Micha n'aurait pas dû faire une chose pareille, dit-il. Je me demande qui a pu lui donner un si étrange conseil. » Cette remarque, venant de l'homme qui avait abandonné le 6e de la surface terrestre à une bande de réservistes ivres et d'ouvriers révoltés, me laissa sans parole. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour.
Alors nous allons revenir avec vous sur cette abdication du tsar Nicolas, mais surtout sur sa vie et sur ce couple extraordinaire qu'il formait avec l'impératrice.
Oui, Franck, une précision tout de même. Nicolas II a abdiqué d'abord en faveur quand même de son fils.
Au tout début, oui.
Au tout début, c'est important. Oubliant l'état de santé effrayant du malheureux Alexis Hémophile, comme on le sait, ce qui est l'origine de beaucoup de drames dans cette affaire. Et c'est parce qu'il avait peur d'être séparé de lui, voilà, que Nicolas II, donc, a reporté son abdication.
Il a posé dans la voiture de chemin de fer, il a posé la question au médecin.
Absolument.
Il lui a dit, est-ce que le tsarévitch a une chance quelconque de guérir? Dites-le-moi. Et le médecin a dit,
aucune. On ne pouvait pas le dire. Non, oui. On ne pouvait évidemment pas le dire. Et surtout que les souffrances aux articulations, par la compression aux articulations à cause du flux sanguin, étaient absolument épouvantables. Donc, on a, en quelques heures, je dirais, on a 3 abdications. Et une révolution qui est en train de venir et qui est en train d'enfler. Je crois qu'il faut rappeler surtout l'extraordinaire malentendu, ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, qui n'est pas une biographie politique, mais une biographie, je dirais, humaine et intime et privée. Le prisme de la vie privée qui permet d'expliquer ou de comprendre les événements, c'est que Nicolas II adorait la vie militaire, or il n'avait rien d'un stratège. Et pour lui, tant que l'armée tenait, l'accueillait, il ne pouvait rien se passer de grave. De même que s'il restait toujours uni avec son épouse et leurs 5 enfants, rien de grave ne pouvait arriver. 2 erreurs, 2 fautes absolument magistrales. Et dans le fond, puisqu'il a pris le pouvoir militaire en 1915 en retirant le commandement suprême à son oncle le grand-duc Nicolas, ce qui était une faute, la suite, si j'ose dire, ne pouvait que se dérouler de cette façon.
Vous voulez que je vous dise, moi, la question que je me pose, Jean, à propos de Nicolas II, et à chaque fois que je lis tous ces aspects assez étranges, notamment de son abdication, je me dis, mais est-ce que cet homme-là était fait pour régner? Et même plus précisément encore, est-ce qu'il n'était pas tout simplement soulagé de déposer la couronne?
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nicolas II et Alexandra de Russie, ils étaient souverains, ils étaient amoureux et on en parle cet après-midi, Franck Ferrand avec vous et avec votre invité. Vous recevez Jean Descartes, historien, journaliste et écrivain, auteur de Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale parue chez Perrin.
C'est un ouvrage très sensible qui nous donne à voir la vie du couple impérial de l'intérieur que vous nous proposez, Jean Descartes. Et ce qui est assez frappant, encore plus peut-être que d'habitude, c'est de voir à quel point les similitudes et les parallèles sont frappants avec le destin de Louis XVI et de Marie-Antoinette. On a vraiment deux couples souverains très proches finalement l'un de l'autre.
Oui, si l'on accepte le drame de l'hémophilie, effectivement, il y a de...
Cela dit, Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu des drames terribles
avec
leurs enfants.
Épouvantables, oui. Bien sûr. Mais je dirais que la menace de l'hémophilie avec le spectacle permanent de cet enfant qui souffre est presque pire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a toujours un faux espoir. Alors, en fait, si vous voulez, Nicolas II est un homme courageux, mais qui est très déterminé, mais ne voit pas du tout l'intérêt de la vie politique en évoluant avec un régime constitutionnel, etc. Il a été très heureux de soutenir, il faut quand même le dire, les Français lors de la bataille de la Marne, qui doit beaucoup, et les maréchaux Joffre et Foch le confirmeront, au succès de la stratégie russe. N'oublions pas
en
1916...
Si les Russes n'avaient pas été là en 1914,
Paris tombait,
c'était fini.
Hein, oui. N'oublions pas non plus le corps expéditionnaire russe envoyé en 1916, près de 20 000 hommes, en France, dans des conditions hallucinantes. Bon, il était très fier de ça. Mais je crois qu'on peut dire que, lassé des combines politiques très médiocres, et en même temps avec un phénomène, je dirais, de léthargie politique, voire personnelle, car on sait, je le montre, que Rasputin, dans le fond, anesthésie un peu le souverain, on a ce désastre, et qui est focalisé par le fait, la grande faute politique, d'avoir quitté Petrograd, d'avoir quitté la capitale, faute que Napoléon III avait commis en 1870. Quitter la capitale, c'est laisser le pouvoir institutionnel vacant et permettre à beaucoup de gens, beaucoup de choses de se passer. Donc on a un homme qui est effondré à l'idée d'être séparé de son fils, donc il renonce à la première abdication, c'est son frère qui prend le pouvoir, ou ce qu'il en reste, qui abdique à son tour. Donc, en fait, à ce moment-là, ex-Nicolas II, tsar, n'a plus qu'une envie, c'est de retrouver les siens, et du moment qu'on sera ensemble...
Tout ira bien.
Tout ira moins mal, et surtout si on peut aller en Crimée. Alors là, j'insiste, très important, parce que le patriotisme du tsar est réel. Il n'aurait jamais voulu accepter l'exil apporté par les cousins d'Angleterre, et encore moins se réfugier en Allemagne. Donc il voulait rester en Russie. Ça, c'est un geste de patriotisme.
Il voulait aller à Livadia, a priori.
Absolument, en Crimée, dans cette merveilleuse Crimée qu'ils adoraient.
Alors, il faut que nous revenions sur l'ensemble de ce règne, justement. On peut dire que ça commençait mal. Il y a un mauvais présage. Pardon de poursuivre ce parallélisme, oui, mais de même qu'il y a eu l'accident terrible au moment des fêtes du mariage de Louis, du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, de la même façon, au moment des fêtes du couronnement du tsar, il y a des...
Alors oui, il y a ce qu'on appelle le désastre de la Kodinka, qui est l'effondrement d'une installation tout à fait provisoire pour donner des boissons et quelques nourritures gratuitement à la population. Donc le terrain n'était pas stabilisé, il va y avoir des milliers de morts. Mais il y a la tragédie et il y a la très mauvaise réaction du souverain et de sa femme, qui aurait dû annuler tout de suite le bal donné par l'ambassadeur de France. Alors là, c'est un jeu de dupes et de protocoles stupides. L'ambassadeur de France attend que le palais annule. Le palais attend que l'ambassadeur de France annule.
Oui, il y a tout un pataquès. Enfin,
mais il y avait une réaction qui n'avait pas besoin de protocole, c'était on annule toutes les réjouissances mais quand voilà, il y a voilà. des milliers de morts, etc. Donc là, si vous voulez, c'est la faute.
Et en même temps, cette ambassade de France a joué un rôle important, puisqu'on est en pleine alliance franco-russe, il ne faut pas l'oublier.
Oui, bien sûr. Donc on ne voulait pas vexer un pays prêteur, ô combien, puisque l'épargne française était très importante au point de vue investissement en Russie, on le sait, depuis la parution du roman de Jules Verne, Michel Strogoff, qui a déclenché cet appétit franco-russe. Bon, et en fait, si vous voulez, Nicolas II, au moment de la mort de son père Alexandre III, qui est un personnage extraordinaire, a très bien dit « je ne suis pas fait pour régner », il n'avait pas cette ambition.
Et puis il était trop jeune, sans doute.
Il était beaucoup trop jeune, puis il va tout subir, et là-dessus, il va subir, il faut le dire, le cauchemar de sa femme qui a quelque chose d'épouvantable pour elle. Elle donne 4 filles à l'Empire russe, donc dans un premier temps...
Pas d'héritier.
On se moque d'elle, on la critique.
Mâle, en tout cas.
Pas d'héritier mâle. Et quand elle donne un fils, il a la maladie du sang vicié qui vient via la reine
par
Victoria,
femmes,
disons,
oui.
uniquement par les femmes. Donc elle est coupable de tout. Elle est coupable à
deux
reprises.
Elle se sent coupable.
Elle se sent coupable et comme elle n'a jamais été populaire et qu'elle est très très rigoureuse, et malgré sa conversion à la religion orthodoxe, elle ne va pas plaire et son aspect physique hautain, alors qu'elle est très belle, ne va rien arranger. Et il faut quand même dire que passer sous la coupe hypnotique de Rasputin va être le déclencheur qui va discréditer le couple et la famille impériale.
Voilà. Alors le précédent tsar, le père de Nicolas, qui s'appelait donc, vous l'avez dit, Alexandre III, et son épouse Dagmar, avaient bien l'intention de marier leur fils aîné, de marier Nicolas, enfin aîné, celui qui restait l'aîné, de le marier à une princesse française initialement.
Oui.
Mais c'est lui qui avait insisté pour épouser cette jeune Allemande.
Bah, il a insisté, ça a été un coup de foudre après qu'il ait eu une liaison avec une ballerine, une danseuse, Mathilde Kchesinskaya, qu'on applaudit plus tard au théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Alors un coup de foudre qui va durer toute la vie. On peut dire qu'ils ont été tellement amoureux que c'est d'abord un roman d'amour avec tout d'un coup quelque chose qui est grave après l'abdication. C'est qu'en raison de l'état de santé du Tsarevitch, ils vont être séparés, mais ça n'était pas la première fois. Le fait que le tsar rejoigne le quartier général de Mogilov à plus de 600 km de Petrograd et laisse dans la capitale très agitée, en proie à l'émeute révolutionnaire, l'impératrice avec un premier ministre dépassé et surtout l'influence de Rasputin était grave. Ils étaient séparés, ils ne se rendaient pas compte que cette séparation aggravait la dilution de ce qu'ils représentaient.
C'est assez magnifique parce que si l'on prend les tsars russes du 19e siècle, presque tous ont vécu sur le trône de belles histoires d'amour, pas tous avec leur épouse légitime, enfin ça c'est une autre histoire. C'était le cas d'Alexandre III et de son épouse, l'impératrice dite Maria Fiodorovna. C'est le cas de Nicolas II et de d'Alexandra. Ils sont très amoureux tous les
très,
deux.
Très amoureux et je pense que tant mieux pour eux si je puis dire en un sens. Et par leur âme, ça a été un aveuglement, un manque de lucidité. La politique dérangeait Nicolas II. Et la religion s'en est mêlée, en effet, d'une façon, je dirais, presque hystérique chez l'impératrice.
Oui, l'impératrice est devenue très religieuse.
Elle est redevenue plus
orthodoxe,
russe que le russe. Oui, mais ça, c'est assez classique. Dans une conversion, sa chambre était tapissée d'icônes. Et en fait, elle rêvait, alors là, c'est atroce, vraiment à la fois grotesque, ridicule et atroce, elle rêvait pendant les meutes révolutionnaires... parce que Rasputin lui glissait cela à l'oreille, elle croyait devenir une nouvelle Catherine II. Alors, c'est effrayant. La fille de Rasputin a d'ailleurs confirmé ce que Rasputin racontait à ses enfants. On a un mélange, je dirais, de tous les ingrédients des romans russes avec des ermites, des fous, des personnages étranges qui arrivent des forêts de Sibérie mais qui ont des pouvoirs incontestables, des gens faibles, une situation internationale. Il est vrai que la Russie n'était pas faite pour supporter une guerre aussi longue et sur autant de fronts, parce que la distance des fronts est terrible. Je dirais que la Russie en paix faisait une illusion fantastique, d'où l'alliance franco-russe. La Russie en guerre s'effondre quand même assez vite, malgré quelques grands succès. Et s'il n'y avait pas eu la défaite militaire, on peut le dire aujourd'hui, la Russie continuait. Le régime aurait tenu guerre n'avait pas été aussi longue.
Tout avait quand même mal commencé à cause d'une défaite militaire face au Japon. Décidément, c'est très intéressant de voir que ce pauvre Nicolas aura été persécuté, si je puis dire, par le Japon toute sa vie, puisque en tant que prince héritier, il avait entendu Tsarevitch, il avait fait un voyage au Japon dans sa jeunesse où il avait quand même reçu un coup de sabre sur le crâne.
Il a failli périr. Alors
cette défaite face au Japon a été évidemment calamiteuse, une humiliation pour la Russie à l'extérieur, bien sûr, c'est une évidence, mais aussi à l'intérieur du pays, ce qui a beaucoup affaibli le pouvoir impérial. Et je le disais tout à l'heure, à chaque fois que ce pouvoir russe s'affaiblit, évidemment, c'est la révolution qui monte. Il y a déjà eu une première révolution, celle de 1905, et les réponses qui déjà à l'époque avaient été apportées n'étaient peut-être pas les bonnes.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
De la valse sentimentale de Tchaïkovski cet après-midi sur Europe 1. Nous sommes en Russie à la découverte d'un couple de souverains très amoureux. Franck Ferrand, vous recevez Jean Descartes, historien, journaliste et écrivain, auteur de Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale parue chez Perrin.
Oui, et je feuillette ce très beau livre. Il est magnifiquement édité par les éditions Perrin avec beaucoup d'illustrations, une jolie mise en page. Et ça, plus la musique de Tchaïkovski, on a beau dire, c'est une vraie machine à rêver, cette monarchie russe. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'on a une impression, c'est très paradoxal, on a l'impression que le monde se désagrège tout autour, que tout va de plus en plus mal, quoique, j'ai montré que c'était une situation contrastée tout à l'heure. Et à l'intérieur de la bulle familiale, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et puis le petit Alexei, les parents Nicolas et Alexandra, on a l'impression de la famille la plus heureuse du monde, la plus une sorte d'élégie permanente avec même des photos couleurs assez saisissantes dans votre ouvrage, Jean Descartes.
Oui, la curiosité, ce qui a, je dirais, fait partir mon idée sur ce livre, ma démarche, c'est que c'est la famille, les Romanov, de ce rang, de ce niveau, à cette époque, qui a été la plus filmée, la plus photographiée.
Oui, oui.
Alors, ce ne sont pas des photos volées et ce ne sont pas des paparazzi de l'époque. ce sont des gens qui adoraient la photo et le cinéma. Il faut savoir que les frères Pathé leur envoyaient des films à Saint-Pétersbourg.
Puis il y avait Anna Virubova, la
photographie
de l'impératrice. Oui.
Et ils développaient, ils montaient les photos sur les albums, ils n'arrêtaient pas. Et on a des photos absolument incroyables, puisqu'on verra en 1905 le tsar embrasser sa femme sur la bouche, ce qui n'est pas tout à fait courant et qu'on n'imagine pas chez Georges V ou Guillaume II. Bon. Et donc il y a une sorte de mémoire visuelle. Alors ça c'est très important parce que c'est la seule famille de ce rang et de cette époque qui nous permet de l'approcher d'une façon aussi intime, incroyable, quotidienne, comme s'il y avait eu des selfies, si j'ose dire, tout le temps à l'époque. Et donc c'est ce qui a expliqué ma démarche. On vit avec eux et en plus, il faut quand même rappeler que contrairement à ce qui a pu se passer dans le vandalisme de la Révolution française, et malgré des conditions épouvantables, guerre civile, deux guerres mondiales, des grands froids, etc., beaucoup, la plupart des documents d'archives, journaux intimes, correspondances, témoignages, ont été gardés et sont ressortis à partir des années 1990. Le retour de la mémoire des Romanov en Russie est absolument considérable parce qu'on peut vivre avec cette famille au jour le jour.
Oui. Et non seulement on vit avec elle au jour le jour, mais on la voit évoluer. D'abord, on voit les enfants grandir et on voit les problèmes devenir de plus en plus forts avec la figure dont on pourrait presque dire qu'elle est la huitième figure de la famille, c'est-à-dire Rasputin qui intervient.
Rasputin qui est beaucoup plus mince qu'on l'a présenté dans certains films de cinéma et de télévision et qui a un regard fascinant. Il faut rappeler qu'il ne touchait pas les gens. Il n'a jamais touché le Tsarévitch. Il concentrait son regard sur lui, ce qui était certainement un grand effort de volonté, et en même temps il avait des connaissances dans la pharmacopée qui étaient assez remarquables. Il avait fait supprimer l'aspirine, qui évidemment pour quelqu'un qui souffre d'hémorragie était la pire chose. Bref, c'était les médecins de Molière qui tuaient. Alors, avec bonne conscience.
Je le disais tout à l'heure, le jeune couple impérial est donc monté sur le trône en 1894, trop tôt dit-on. En 96, il y a le célèbre voyage en France qui va les rendre tellement populaires.
Le premier,
il y en a eu deux. Et puis l'année où tout se détraque, c'est 1905.
En 1905, parce que...
Avec la guerre contre le Japon et oui. la petite révolution, enfin la première révolution.
Le Dimanche Rouge,
voilà,
oui. Le Dimanche Rouge où, là, par absence physique du tsar qui est à Tsarskoïe Selo et qui aurait dû être au Palais d'Hiver, qui aurait dû être informé, alors là on peut s'interroger, est-ce qu'il a été réellement informé? Est-ce que le téléphone a fonctionné? Est-ce que des coursiers, des gens au galop ont fait ce qu'ils auraient dû faire? Bref, et qu'aurait-il fait? Serait-il apparu au balcon? La foule pacifique, conduite par un pop au rôle assez ambigu, comme souvent à cette époque. Mais enfin, une foule pacifique n'est pas reçue par le tsar, et quelqu'un donne un ordre absolument stupide et dramatique. Les Cosaques vont tirer sur la foule. Il reçoit donc Nicolas II, le surnom de Nicolas le Sanglant, qu'il va porter pratiquement définitivement. Il y a, dans cette année 1905, la mutinerie du Potemkin, et je précise que lorsque cette mutinerie intervient, et bien avant, n'est-ce pas, que la légende ne soit déformée par le fameux film de Eisenstein, en fait, le Potemkin est une unité de guerre qui est toujours en guerre, car la paix n'est pas signée avec le Japon. Et je précise aussi que pour la Russie, la grande humiliation, c'est qu'il va falloir que les États-Unis d'Amérique interviennent pour signer, pour faire aboutir une médiation et une paix, la paix de Portsmouth aux États-Unis.
Cette famille est confrontée à des difficultés de plus en plus grandes, même si sur un plan économique, on voit les choses s'améliorer dans le courant des années 1910.
Franck, il faut dire que sans la révolution, d'ailleurs, j'allais dire sans la guerre,
oui.
Lénine l'a dit, la Russie était en train de faire des progrès considérables. Alors, certes, inégalement répartis.
Oui, bien sûr.
Mais le degré d'alphabétisation progressait, le degré des équipements, la confiance, enfin, il y avait beaucoup de choses, au tel point que Lénine était quasiment désespéré. Il disait, s'il n'y a pas une guerre et une défaite, nous n'y arriverons pas.
Oui, mais il y est arrivé très bien, avec l'aide des Allemands, etc. Ça,
ah,
nous n'entrerons pas là-dedans. Vous avez réussi, grâce aux journaux, il faut dire quand même que l'empereur, l'impératrice tiennent leurs journaux,
oui.
Grâce à
toutes
sortes...
Tout, oui.
On sait tout, en fait.
Avec,
hein.
Avec une bonne conscience. Alors, c'est pas toujours de la bonne littérature. On a l'impression de lire la précision de rapports de gendarmerie, mais c'est très, très valorisant pour l'historien, parce que on peut rassembler tous les horaires, tous les détails. Je précise que c'est amusant, car on a tous les détails sur Nicolas II, chef de famille, et là c'est un aspect qui n'avait pas été exploré, où je montre
qu'il est quand même pas tendre.
Il n'est pas tendre. Alors, avec le cousin ou le neveu qui se marie mal, selon lui.
Alors lui n'est pas tendre avec sa famille, mais vous n'êtes pas tendre avec lui, j'allais dire.
Bah, j'essaie d'être
j'étais convaincu en ouvrant ce livre que on allait tomber une fois de plus dans une sorte d'élégie de Nicolas et Alexandra, non. Et en fait vous avez un regard
le plus objectif et le plus documenté possible. Ça fait des années que je m'intéresse au personnage et je vois toutes les chances qu'il a manquées, qu'il a ratées. Il n'avait pas l'instinct
politique du tout.
Politique, bon, ça... et du contact avec le peuple, il avait celui trompeur du contact avec l'armée.
Ah,
et
oui.
Je dis bien trompeur. Il a été élevé dans une éducation militariste et militaire et il a pensé, et on a pensé, pas tous, si on lit les commentaires de l'entourage, que cela pouvait suffire, ce qui a été une très très grave erreur, évidemment. Mais ce qui est fascinant, je vous dirais peut-être une sorte de conclusion, c'est que aujourd'hui, dans un pays immense comme la Russie, que les Français comprennent très mal, malheureusement, et qui a subi une humiliation terrible, qui est dans les années 90 l'implosion de l'Union soviétique et qui essaye de se reconstruire, de reprendre sa place, le retour de la mémoire sur les Romanov est absolument prodigieux, comme le retour comme le retour de la religion orthodoxe dans un pays qui avait professé l'athéisme pendant 70 ans.
Vous passez souvent à Yekaterinbourg, vous, en fait.
Très souvent,
sur les lieux du crime, en fait.
Il y a des photos dans mon livre que j'ai faites moi-même qui sont, je dirais, très, très bouleversantes, très émouvantes, parce qu'il y a des pèlerinages, il y a des offices, il y a des processions, et on voit quelque chose qu'on n'imagine pas en France. On voit la coexistence de tous les passés. Nous sommes passés, lors d'un de mes voyages, mon épouse et moi, du côté de Novossibirsk, et avant Kazan, on est passé à un endroit où il y a la réinauguration d'une statue d'Alexandre III, un tsar, le colosse, celui qui était si gros qu'on disait quand il est à cheval, on ne sait pas lequel des deux est la bête, et à 200 mètres, une statue de Lénine, parce que les deux font partie de l'histoire. Imaginez, en France, une statue de Louis XVI, pas très loin d'une statue de Robespierre. Je pense que la leçon que donnent les Russes, c'est de comprendre que l'histoire n'est pas une dégustation à la carte avec des soi-disant bons et mauvais morceaux, mais c'est un menu complet.
Oui. Avec des plats plus amers que d'autres, sans doute.
Certes, et d'autres plus épicés. Mais je veux dire, le retour de la mémoire fascine parce que les gens voient comment vivait le tsar, son carnet, ses photos, les photos des enfants qui se promènent avec les petits appareils photographiques.
On a assisté en 1998 à la célèbre inhumation des restes. De la famille impériale. C'était donc à la forteresse Pierre-et-Paul, évidemment, en présence de Boris Yeltsin.
Ah, j'ai vu Boris Yeltsin se frapper la poitrine et demander pardon pour les crimes du bolchevisme, du stalinisme et de leurs successeurs.
Et on est en train là de clore le chapitre, si je puis dire, puisqu'il est, vous avez
Il est question d'inhumer les restes retrouvés du tsarévitch Alexis et d'une de ses sœurs, la grande duchesse Maria, qui avait été mis à part. Il faut rappeler les conditions atroces dans lesquelles les corps des malheureuses exécutées ont été suppliciés en plus après dans ces nuits tragiques de l'Oural. Actuellement, une polémique est née entre le patriarcat de Moscou, qui aimerait bénéficier, si je puis dire, de ce moment de sainteté, parce que Moscou reste la capitale religieuse, même dans la Fédération républicaine de Russie, mais la crypte des Romanov est à Saint-Pétersbourg, et je n'imagine pas qu'on puisse ne pas les réunir une dernière fois, puisqu'ils ont été réunis ensemble lors de leur exécution.
Oui, semble-t-il. Mais j'avais promis que nous n'ouvririons pas ce chapitre. Il est temps de clore l'émission plutôt et de renvoyer nos auditeurs, cher Jean Descartes, à votre Nicolas II et Alexandra de Russie, publié chez Perrin, avec ce sous-titre qui, somme toute, résume toute l'affaire. Une tragédie impériale.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à cette question. Quelles sont les origines de l'expression « rire jaune » À tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, c'est une question de Louise sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire qui vous demande, Franck, les origines de l'expression « rire jaune ».
C'est intéressant parce que ça fait allusion à une couleur. Moi, j'aime bien ces expressions et ces questions de couleur. Vous savez que pendant longtemps, le jaune était connoté très positivement. C'est qu'en Chine, c'est même la couleur de le safran, c'est la couleur de l'empereur, bien entendu. On n'avait pas le droit de porter de vêtements de cette couleur sous peine de mort. C'est la couleur du soleil, du blé, de l'or, etc. Et puis, voilà qu'au Moyen-Âge, en Occident, dans l'Occident médiéval, le jaune se connote de façon nettement plus négative. On l'associe notamment à la trahison, puisqu'on dit que Judas aurait été vêtu de jaune le jour de son forfait. On associe aussi le jaune à la méchanceté, à la maladie, etc. Au XIIe siècle, le pape Innocent III va obliger les juifs à porter du jaune pour les soumettre au mépris du public. Vous voyez la nature même de cette vexation. Il s'agit du symbole de la trahison, d'une façon générale, ou de l'infidélité, etc. Par exemple, l'expression « être peint en jaune », autrefois, ça voulait dire tout simplement « être cocu ». Alors, l'origine exacte de l'expression « rire jaune », il faut la chercher au début du XVIIe siècle chez Houdin, qui écrit « il rit jaune comme farine ». Farine qui n'a rien à voir avec la farine, hein, ça voulait dire quelqu'un de vicieux. Rire jaune, c'était produire un rire malsain, un rire un peu fourbe, vous voyez, voilà. Et puis un petit siècle plus tard, Saint-Simon a utilisé l'expression, alors vraiment dans son sens actuel, le jaune rappelle le teint des malades atteints d'hépatite ou de jaunisse, et leur maladie serait censée les empêcher de rire de bon cœur. Il fallait donc feindre une expression de circonstance pour éviter la gêne. Voilà le rire jaune, selon Saint-Simon, qui depuis est entré de plain pied dans notre vocabulaire.